Voilà, une anecdote pour introduire la méditation d'aujourd'hui. Le 30 juin 1859, donc vous voyez, c'est pas récent, la personne que vous voyez à l'écran, de son vrai nom Jean-François Gravelet, connu sous le nom de Charles Blondin, fut le premier homme à traverser les chutes du Niagara sur une corde de 330 mètres de long. Et il ne s'est pas contenté de le faire une fois, il en a fait quasiment une profession. C'est-à-dire qu'il a traversé les chutes je ne sais combien de fois, de différentes façons. À gauche de l'écran, vous voyez l'affiche qui faisait la publicité de ses spectacles. Il faisait des sauts périlleux avant, arrière, des équilibres sur une chaise, il prenait des photos de la foule, il a même fait cuire un repas sur un réchaud. Il a fait la traversée avec un sac sur la tête ou en portant son agent sur le dos, comme on le voit sur l'image de droite. Et un jour, il s'est présenté avec une brouette et il a demandé au public « Croyez-vous que je puisse faire la traversée en poussant cette brouette avec quelqu'un assis dedans ?» Les gens l'avaient vu faire tellement de choses merveilleuses qu'ils ont répondu tous en cœur « Oui !» Et il a dit « Et qui serait volontaire pour monter dans la brouette ?» Et devinez, personne ne s'est proposé. Alors pourquoi cette anecdote ? Ben pour montrer qu'il y a quelquefois plus qu'un détail entre dire et faire. Et on va se demander aujourd'hui s'il ne nous arrive pas d'agir un peu comme cette foule, en confessant des choses et en agissant d'une façon qui n'est pas tout à fait en accord avec ce qu'on professe. Je vous propose de lire dans l'épître de Jacques, au second chapitre, à partir du verset 14. Et si vous avez bien écouté la première partie du culte, ce dont je ne doute pas, vous verrez que ça va résonner avec des choses qu'on a déjà entendues. Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes ? Une telle foi peut-elle le sauver ? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien et restez au chaud et bon appétit !» sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule sans se traduire en actes, elle est morte. Mais quelqu'un dira, l'un a la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par les actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, mais les démons aussi le croient, et ils tremblent. Tu ne réfléchis donc pas ? Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien ? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble, et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet, Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et il l'a appelé son ami. Vous le voyez donc ? On est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes, lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin ? Comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Le verset 14 nous indique de suite de quoi il est question dans ce passage. Les actes sont une démonstration, une manifestation de la foi. Les mots « foi » et « acte » apparaissent chacun 12 fois dans la traduction que je vous ai proposée, dans ce passage qui ne compte que 13 versets. Donc ça veut dire que quasiment dans chaque verset, on a « foi » et « acte ». C'est bien là le cœur du sujet traité. pour ne pas répéter sans arrêt acte, je dirais quelquefois acte, quelquefois œuvre, quelquefois bonnes actions, c'est juste des figures du style, mais ça veut dire la même chose. Pour étayer cette première affirmation, Jacques nous donne un premier exemple concret. Comment quelqu'un qui se dit croyant est-il appelé à se comporter face à un frère ou une sœur qui n'a pas de quoi se nourrir ni se vêtir? Les paroles qui nous sont rapportées, « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit », je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ce n'est pas la réponse appropriée. Je dis même que ça dénote un manque certain d'empathie, voire un certain cynisme. Dire bon appétit à quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. Ce qu'on appelle quelquefois des bonnes paroles ne sont assurément d'aucune aide à ce frère ou à cette sœur qui sont dans le dénuement. Elles démontrent au contraire un cœur insensible et indifférent à la souffrance de l'autre. Et comment ne pas voir la contradiction entre de telles paroles et une confession de foi envers un Dieu qui est amour et qui commande d'aimer son prochain? Le verset 17 formule la première conclusion de Jacques, une foi qui n'est que parole et n'est pas suivie d'actes est une foi morte qui ne produit aucun effet bénéfique. Darby traduit le verset 14 de la façon suivante, « Mes frères, quel profit y a-t-il si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il n'est pas d'œuvre ? La foi peut-elle le sauver ?» Darby utilise le terme de « profit ». Dans l'exemple précédent, il est bien clair que le frère ou la sœur qui sont dans le dénuement ne tire aucun profit de la réponse qui leur est faite. Mais celui qui donne cette réponse n'en tirera non plus aucun profit. Si vous vous souvenez, je vous ai parlé il y a quelque temps de 2 Corinthiens 5, où il est dit « Chacun recevra ce qui lui revient selon ses actes, bons ou mauvais, qu'il aura accompli par son corps. » Jacques nous dit clairement que ce que nous appelons parfois de bonnes paroles sont insuffisantes pour obtenir une récompense aussi infime soit-elle. Mais revenons au texte. Le verset 18 traite de la même question. Quel rapport y a-t-il entre la foi et les actes? L'un peut-il aller sans l'autre? Je viens de vous relire le verset 14 qui se terminait ainsi. Une telle foi peut-elle sauver? Certains pensent que Jacques contredit l'enseignement de Paul en disant que les œuvres sont nécessaires au salut. Et je pense que ça vaut le temps de s'arrêter pour réfléchir quand même au lien qu'il y a entre les œuvres et les actes. Paul semble clair. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc de raison de se vanter. Je pense qu'il n'y a pas tellement différentes façons d'interpréter ce verset. Paul affirme que c'est la foi qui sauve. Et il enfonce le clou, Romains 3, verset 28, « L'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. » Et là, à la fin du verset, on trouve une mention des œuvres dont on parle ici. Parce qu'on va s'apercevoir que finalement, pour bien comprendre qu'il n'y a pas de contradiction entre Paul et Jacques, il faut s'intéresser à cette question de quelles œuvres parle-t-on? Là, clairement, Paul parle des œuvres qu'exige la loi. Autrement dit, Paul fait le raisonnement suivant. Pardon, je suis passé un peu trop vite. Alors attendez, je me suis un peu perdu. Paul parle des œuvres qui sont demandées par ce qu'on appelle la loi mosaïque, la loi juive, et le raisonnement qu'il fait, c'est le suivant. Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Puisque personne n'est capable de satisfaire aux exigences de la loi de Moïse, ce ne sont pas les œuvres qui vont nous gagner le salut. D'accord ? Quoi qu'on fasse, ça n'est pas notre mérite qui fait que nous sommes déclarés justes. Jacques, lui, parle des œuvres que nous sommes appelés à faire en tant que chrétiens, après avoir été justifiés. Et il affirme que nos actes, après notre justification, sont la démonstration, la manifestation concrète de notre foi, au point que si on ne voit pas d'actes, on ne voit pas de bonnes œuvres chez un frère ou une sœur qui se dit croyant, on peut se demander s'il y a vraiment de la foi. Rappelez-vous le verset 16. « Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit. » Où est-ce qu'on voit là une marque de foi ? Est-ce qu'on voit là l'expression d'un cœur transformé par l'amour de Dieu ? Ou est-ce qu'on voit encore un cœur de pierre et quelqu'un qui est encore dans ses pensées, qui n'a pas bien réalisé la situation et qui passe ? Jules Marcel Nicole, que j'aime bien citer, écrit « Notre justice ne dépend pas de nos œuvres, mais si nous n'accomplissons pas d'œuvres, c'est que nous n'avons pas la foi qui justifie. » Fin de la citation. On peut résumer ainsi l'affirmation de Jacques, « La véritable foi se manifeste par les œuvres, ou ce qui revient au même, l'absence d'œuvres, c'est le signe de l'absence de foi. » C'est presque une démonstration mathématique. Ce changement de formulation, les mathématiciens appellent ça la contraposition. Il y a deux façons de dire la même chose, une façon affirmative, une façon négative. Et vous avez probablement déjà entendu cet enseignement. Pour illustrer cette pensée, on dit souvent que la foi et les actes sont les deux faces d'une même médaille. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Pour résumer, Paul parle des œuvres d'un homme qui n'est pas encore converti et qui essaye de gagner la justification. On sait que ça sera voué à l'échec. Jacques parle des œuvres d'un homme, ou d'une femme bien sûr, converti, qui manifeste par ses actes la réalité de sa conversion. Et il y a un verset qui réconcilie Paul et Jacques, c'est Éphésiens 2, verset 10. Par notre union avec le Christ, Jésus Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Éphésiens, c'est Paul qui parle. Ça n'est plus Jacques. Autre réflexion sur la foi. Le verset 19 nous dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. » Dire que les démons croient en Dieu, c'est affirmer qu'ils reconnaissent que Dieu existe. Et on voit dans les évangiles des récits où les démons demandent à Jésus de les laisser tranquilles, « Envoie-nous là-bas, fais ceci, cela. » Ils savent qui est Dieu. Et ils le craignent. Est-ce qu'on dira pour ça qu'ils ont la foi ? La réponse est clairement non. Croire et avoir la foi, ce n'est pas la même chose. La foi implique une totale confiance en Dieu. Le public croyait que Charles Blondin pouvait faire la traversée, mais pas au point de monter dans la brouette. Il n'avait pas foi en Charles Blondin. Et pour nous expliquer ce qu'est la vraie foi, Jacques nous propose deux exemples, les vies d'Abraham et de Rahab, qui par leurs actes ont montré leur confiance en Dieu. Je vous relirai quelques versets du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux qui parle de la foi d'Abraham. Au verset 8, « C'est par la foi qu'Abraham obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. » Imaginez-vous dans cette situation. Va, fais tes valises, va, et une fois que tu seras dans le bus ou dans le train ou dans l'avion, je te dirai vraiment ce que tu vas faire. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Même si elle a commencé par rire, sa foi est mentionnée. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. On trouve ceci dans Genèse 22 au verset 10. Tous ces versets et bien d'autres montrent que la foi d'Abraham l'a poussé à obéir, à faire confiance à Dieu et à faire ce que Dieu lui demandait. Or, le verset qui dit « Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste » se trouve en Genèse 15, alors que le sacrifice d'Isaac, c'est en Genèse 22. Paul en déduit qu'Abraham a été déclaré juste avant de s'être fait circoncire, avant d'avoir offert Isaac, et ces mêmes versets finalement montrent bien que Jacques a raison de dire que la foi se manifeste par des œuvres et des actes d'obéissance. Deuxième exemple, Rahab. Si vous ne connaissez pas bien l'histoire de Rahab, vous relisez ou vous lisez le livre de Josué au chapitre 2, où il nous est dit qu'elle a accueilli des espions israélites chez elle. Il faut imaginer la situation, hein, je veux dire, elle est cananéenne. Et puis, il y a des gens qui viennent d'Égypte, là, qui ont traversé la mer et qui ont fait tomber les murailles de Jéricho. C'est l'ennemi qui arrive, hein, qui envahit, et elle les reçoit. Elle les accueille chez elle, elle les cache sous son toit. Elle ment aux autorités pour les protéger. Elle confesse sa foi en Dieu. Elle demande grâce et espère en Dieu. Et elle attache un cordon rouge à sa fenêtre pour que le moment venu, on puisse identifier sa maison. Rahab ne s'est pas contentée de paroles. Mais là, on voit que pour mettre sa foi en accord avec ses actes, elle a dû faire preuve de courage et de constance dans le temps. Si un seul spectateur avait eu la foi de Rahab, il serait monté dans la brouette. Ça, c'est clair. Alors peut-être que vous vous dites, ben oui, mais moi je ne suis pas Abraham, je ne suis pas Rahab, et moi non plus. Mais Jésus, dans l'évangile de Matthieu, nous dit que même les plus petites de nos actions, même celles dont nous ne sommes pas forcément conscients, seront portées à notre crédit. Une lecture dans Matthieu 25. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui, alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim, et j'ajoute, et vous ne m'avez pas souhaité bon appétit, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements, j'étais malade et vous m'avez soigné, j'étais en prison et vous êtes venu à moi. » Luc n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il est concerné. Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Ou étranger et t'avons-nous accueilli ? Ou nu et t'avons-nous vêtu ? Ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite ?» Ils se disent, « Mais j'ai jamais donné à boire à Jésus. » Concrètement, ça ne s'est pas réalisé, mais Jésus leur répond, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Jésus n'est plus parmi nous, et vous êtes tous là, et on est bien entourés, il y a tant de gens à qui on peut faire du bien. Ce texte nous montre que ce que nous appelons aussi des bonnes actions, qui paraissent les plus insignifiantes, sont prises en compte. Même quelquefois à la surprise des auditeurs de Jésus. Ils ne voient pas en quoi ils ont été méritants, ça leur a paru naturel ce qu'ils ont fait. Et vous remarquerez que toutes ces actions qui sont retenues par Jésus sont des actes de compassion envers leurs prochains. Ils obéissent là au commandement aimez-vous les uns les autres. Je n'ai pas voulu faire trop long et je n'ai pas lu la deuxième partie du texte, qui reprend quasiment mot pour mot les versets précédents, mais là on n'est plus à droite avec les brebis, on est à gauche avec les boucs. À droite c'est ceux qui ont fait et à gauche c'est ceux qui n'ont pas fait. Et j'imagine que ceux qui n'ont pas fait essaieront de se défendre, je dis bien j'imagine. Mais je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas porté de faux témoignages, rien du tout. Et c'est vrai pour beaucoup de gens. Mais leur indifférence à la souffrance des autres les condamnera. Christian nous rappelait en conclusion de sa dernière prédication, « Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » On peut mentir par omission, eh bien on peut pécher par inaction. Alors pour conclure, je vous laisserai une image. Un engrenage avec deux roues dentées, simplement. L'une sur laquelle on aurait gravé foi et l'autre sur laquelle on aurait gravé acte. Si notre foi est vivante, donc si la roue de gauche tourne, eh bien, la roue de droite va tourner. Par contre, si la roue de droite est immobile, ben, la roue de gauche est immobile. On voit bien comment les deux sont liés. Dans notre parcours « Lire ensemble la Bible », nous devons chaque semaine répondre à trois questions à propos des textes lus au cours de la semaine. Et les deux dernières questions sont formulées ainsi, « Que me dit ce texte sur ma situation actuelle ?» et « Que dois-je changer dans mes habitudes suite à cela ?» Pour ne pas vous culpabiliser, je vais vous dire que si j'ai choisi de méditer ce texte, c'est parce que j'ai pris pour moi ce verset qui nous parle de la réponse apportée à la personne qui a faim et qui n'a pas de quoi se vêtir. Est-ce qu'il ne m'arrive pas encore souvent d'être indifférent à la souffrance des autres parce que trop occupé à me regarder moi-même? Est-ce qu'il ne m'arrive pas encore trop souvent de donner une parole d'encouragement, de citer un verset de la Bible? Alors bien sûr, citer la parole, c'est toujours bon. Mais si ça t'arrête à ça. Et je rejoins la conclusion de Christian dans son dernier message. Souvent, je peux faire une bonne action. Mais est-ce que j'en ai toujours envie? Est-ce que je le fais toujours? Prions.